Bonjour à tous. Restons bien dans ce que nous vivons à travers cette louange. J'aimerais juste préciser que le message que j'ai reçu dans une semaine un peu tumultueuse en France est indépendant du mail reçu par certains responsables concernant l'équipe de prière et discernement. Je ne l'ai volontairement pas encore lu. Je suis rentré hier de façon à vraiment ne pas me laisser influencer, mais garder ce que Dieu a mis sur mon cœur. J'aimerais commencer par une lecture dans Luc 1, versets 76 à 80. C'est Zacharie qui prophétise sur son enfant qui vient de naître et il dit « Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres ou dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur les chemins de la paix. » Et petit détail, verset 80, important, « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Ensuite, nous lisons Matthieu 3, versets 1 à 6 et 11 et 12. « À cette époque-là, parut Jean-Baptiste qui prêchait dans le désert. » Il disait « Changez d'attitude, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui que le prophète Ésaïe avait annoncé lorsqu'il a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez ses sentiers droits. » Ésaïe 40, verset 3. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Versets 11 et 12, Jean dit « Moi, je vous baptise d'eau en vue de la repentance. » Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses sandales. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a à sa pelle la main, il nettoyera son aire de battage et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas, signifiant le jugement. Nous vivons... Le monde, en tout cas, est entré dans une situation, une phase un peu anxiogène. Et beaucoup de gens admettent aujourd'hui que la fin du monde est possible. J'enlève mes lunettes. Ce qui était impossible il y a 10 ans. Parallèlement, en Occident, l'Église est marginalisée de la société dans laquelle elle vit. Et ses droits sont limités, voire légiférés. Il y a donc un enjeu, c'est la crédibilité de l'Église. Elle n'a pas le choix. Soit elle devient prophétique, soit elle n'est plus. Et je vous propose ce matin une analogie entre le ministère de Jean-Baptiste et l'appel de Jean-Baptiste appelé à préparer le chemin du Seigneur en vue de sa venue, et l'appel de l'Église épouse appelé à préparer le chemin en vue de son retour. C'est quand même intéressant de constater que depuis plus d'une année, nos prédications s'orientent la plupart du temps dans une dimension communautaire et non plus individualiste. Je crois que le temps où chaque chrétien évangélique était une Bible à lui tout seul est terminé. Je crois que le temps où chaque chrétien se ressource en slogan de prédicateur qui surenchérissent sur une scène de convention et excitent psychiquement notre foi, c'est fini. L'Église, épouse du Christ, entre dans un temps d'apprentissage, un temps de désert. Le Seigneur Dieu permet cette marginalisation face à la société. Le Seigneur Dieu est en train de nous faire entrer dans une sorte de mise à part, dans une sorte de formation à la sainteté, une préparation à revêtir les habits de noces de l'agneau et à entrer avec l'Esprit Saint dans cette prière d'Apocalypse 22-17. Viens, viens Seigneur, reviens. C'est aussi le temps du bilan après 3 décennies où on nous a souvent prêché que l'Église devait impacter la société. C'est entre autres quelques exemples qui existent. Béni soit Dieu. Pas plus tard qu'hier dans le 24 heures, à propos des naissances, il est dit que la région autour de Thun, c'est là qu'on fait le plus de bébés en Suisse, alors que la situation démographique est contraire. Et l'explication, c'est marqué une ceinture biblique autour de Thun. L'explication, c'est que c'est rempli d'églises évangéliques qui font plein d'enfants. Béni soit Dieu. C'est dans la page 3, je crois, du 24 heures d'hier. Mais je crois que la société a plus impacté l'Église que l'Église a impacté la société. Et que nous constatons en nos seins certains dégâts, notamment sur la consommation des images pornographiques, l'éthique familiale, voire aussi peut-être un goût à la consommation, au matérialisme. Cette rupture avec le monde, la Bible nous dit que Jean-Baptiste l'a exercée dès son enfance en étant dans les déserts, jusqu'au jour où il devait paraître, nous dit le verset 80. Ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Baptiste, il prêche dans le désert où il n'y a personne. Et voilà que des foules viennent de Jérusalem, de la région de Judée et même de la région du Jourdain pour venir l'écouter. Et que voyait-il ? Une espèce de baba cool zadiste, en rupture avec le système consumériste de l'époque, habillé avec un vêtement de poil de chameau qui devait super gratter, démangé en tout cas. Il se nourrit de sauterelles riches en protéines et de miel sauvage riche en sucre énergisant, de quoi faire trembler McDonald's. Je crois que pour être prophétique, l'Église a besoin de ce changement. Elle a besoin de ce régime sec ou sec. Pour pouvoir être écouté, Dieu veut l'utiliser, il a besoin d'un instrument qui incarne une différence en tant que royaume de Dieu qui vient. Nous avons trop joué la conformité avec le monde. Et en termes de différenciation, je crois que cet enfant de 13 ans, appelé Greta Thunberg, a été un instrument permis par le Seigneur. En tant que jeune adolescente, atteinte d'une forme d'autisme, elle a pu entrer par toutes les portes fermées du monde politique. elle a pu prêcher devant l'Assemblée de l'ONU. Elle a pu prêcher au Forum de Davos, tout en étant cohérente avec son discours et en campant dans la neige en plein mois de janvier ou février. À Davos, donc. Hein. Elle a pu dire des vérités écologistes à de nombreux dirigeants de la planète, y compris Donald Trump. Il faut être courageux. Son message, changer de comportement radicalement, est le message de l'Église. Repentez-vous. Ce qui veut dire changer de comportement, changer d'attitude, renverser la tendance, la direction. Convertissez-vous. On a pu croire au début de la pandémie, en raison des avions cloués au sol, du confinement et des voitures bloquées, ainsi que la planète qui était vue, son nuage de pollution, que le message de Greta Thunberg allait passer. Des gens se sont mis au vélo, au jardinage, d'autres ont prié en serrant dans leurs bras des troncs d'arbres dans la forêt. Tu parles. Aujourd'hui, avec la reprise, c'est pire qu'avant. Sans parler de la course aux satellites, la course à la conquête de Mars, le pillage des ressources naturelles pour répondre aux futurs besoins des matières premières pour le numérique et pour l'électrique motorisée. Repentez-vous, changez de comportement. Ne commence pas en allant apporter des capsules de café à la déchetterie. Changer de comportement consiste à laisser le Seigneur Dieu entrer dans un vrai examen de conscience. De laisser une prière de profonde tristesse et de voir la place du péché dans nos vies. Il s'agit d'un lâcher prise. Possible qu'à partir d'un épuisement personnel intérieur, alors qu'on a exercé toutes nos ressources personnelles. C'est la fin de nos prétentions, c'est la fin de notre orgueil. C'est un appel intérieur de détresse vers quelqu'un de plus haut, de plus fort. C'est le début d'une noyade avant d'être secouru par un sauveteur, un sauveur. Et ce sauveur s'appelle Jésus-Christ, un sauveur indispensable, unique, qui nous fait réaliser le régime de mort pour lequel nous sommes condamnés pour l'éternité. Et Jean le Baptiste n'a pas peur des mots. Ce n'est pas la planète qu'il s'agit de sauver, même si celle-ci nous est dit par saint Paul dans Romains 8, 19 à 22, qu'elle soupire en attendant d'être libérée de la corruption actuelle du péché et de l'homme, pour qu'elle accouche, elle vit les souffrances de l'accouchement pour pouvoir espérer d'entrer dans la liberté promise des enfants de Dieu. Donc, ne renions pas non plus cet aspect. Mais il s'agit donc de ma vie et non pas celle de la planète, de celle de mes amis, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, qui, mort sur la croix, nous a sauvés de tous nos péchés, afin que tous soient sauvés. Jean 3, 16. Donc Jean annonce ce jugement, et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les gens se déplacent dans le désert pour l'écouter, et probablement, c'est ce qui va peut-être arriver à l'Église, sûrement d'ailleurs, mais ils ont compris l'urgence du message. Ils confessent publiquement leur faute devant tout le monde avant de choisir de se faire baptiser. Il y a comme une grande confession publique. Ça me paraît assez extraordinaire. Changer de comportement pour sauver la planète, c'est pratiquer un changement extérieur. Changer de comportement pour être sauvé, c'est pratiquer un changement intérieur suite à une révélation de notre réalité personnelle et spirituelle profonde. Un petit détail encore, nous vivons aujourd'hui, depuis peu, un retour à la barbarie. Sous différentes formes, réseaux sociaux, intimidation. J'entendais sur France qu'un un député qui avait choisi de vacciner ses enfants avait reçu des menaces de mort sur ses enfants par les anti-vaccins. Et il y avait même des poupées qui avaient les yeux percés dans son jardin. Bref, discours de haine, actes de vandalisme, nous sommes tous menacés par la violence et par la haine. Après la chute de l'Empire romain, devenu officiellement chrétien, il y a eu les invasions barbares qui se sont succédées. C'était une période qui n'était pas facile. Et les rares résistances chrétiennes de cette époque se sont constituées par la construction d'abbayes et de monastères qui échappaient à ces invasions et qui servaient de refuge pour les populations menacées. Ils y trouvaient non seulement du refuge, de l'hospitalité, mais aussi des soins, des rudiments scolaires. Et ces abbayes et ces monastères avaient deux, en principe, ora et labora, prient et travail, donc la prière et le jardin étaient pratiqués. Je crois que nos communautés sont appelées à jouer ce rôle prophétique du salut, d'être des refuges pour ceux qui sont menacés et qui ne savent plus où aller. J'aimerais terminer plus brièvement dans deux lectures, dans Matthieu 14 d'abord, il nous est dit, verset 3 à 12, en effet, Hérode avait fait arrêter Jean, il l'avait enchaîné et mis en prison à cause d'Hérodiade, la femme de son frère Philippe, car Jean lui disait il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait... Donc Hérode voulait le faire mourir, mais il redoutait les réactions de la foule parce qu'elle considérait Jean comme un prophète. Or, lorsqu'on célébrait l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade dansa au milieu des invités et plut à Hérode de sorte qu'il promit avec serment de lui donner ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste ». Le roi fut attristé, mais à cause de ses sermons, et des invités, il ordonna de la lui donner, et il envoya décapiter Jean dans la prison. Sa tête fut apportée sur un plat et donnée à la jeune fille qu'il apportait à sa mère. Les disciples de Jean vinrent prendre son corps et l'ensevelir, puis ils allèrent l'annoncer à Jésus. Et puis, chapitre 11, juste avant, versets 2 à 6. Or, dans sa prison, Jean avait entendu parler de ce que faisait Christ. Il envoya deux de ses disciples lui demander « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez rapporter à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. » Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Jean-Baptiste a été cohérent avec son message, nous l'avons vu. Et si l'Église de Jésus-Christ l'est aussi, des Hérodes sauront se manifester et la menacer. Je crois qu'une dictature écologico-humaniste est en marche dans notre pays avec des valeurs incompatibles avec les nôtres. Jean, pourtant, alors qu'il est en prison et qu'il est menacé de mort, se met à douter. Es-tu vraiment le Messie qui doit venir ? Fait-il interroger à Jésus par l'entremise de deux de ses disciples. Jésus nous dit ce matin, au verset 6, heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Jean remet en question son ministère et son action. Et j'aimerais juste dire que ce n'est pas mon service chrétien, mon rôle de, peu importe, prédicateur ou autre, mon action dans l'Église qui va faire mon identité en Christ. Ce n'est pas mon service chrétien, ce n'est pas dans mon service chrétien que je vais trouver mon identité en Christ. Mon identité en Christ, c'est une vie habitée, et j'ai même envie de dire habillée, par la repentance et l'adoration, tels que les mots que nous avons chantés tout à l'heure, avec puissance. C'est se revêtir des habits de noces chaque jour, en vue du royaume qui vient. C'est l'exercice d'une prière de louange et d'adoration, de connexion spirituelle avec l'actualité de l'adoration perpétuelle telle qu'elle est vécue et exercée par les anges et les saints et les anciens dans le ciel. C'est pour ça que je termine avec ces paroles d'espérance comme une prière où il est dit « Une voix du trône » Apocalypse 19, verset 5, une voix du trône dit « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, autrement dit qui pratiquez la repentance, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grosses eaux, grondements de forts coups de tonnerre. Et elle disait, Alléluia, car le Seigneur notre Dieu, Tout-Puissant, a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire, car voici venu le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin, éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Les œuvres justes des saints. L'ange me dit alors, écris heureux ceux qui sont invités au festin des noces de l'agneau. Puis il ajouta, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères et sœurs qui gardent le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Amen. J'invite, avant la prière, les musiciens à s'installer. Je vous propose un moment de silence, d'introspection, d'appel de la grâce de Dieu sur nos vies. On commence par un moment de silence, ensuite je prierai, puis nous chanterons. Seigneur, je t'appelle sur ma vie. D'une manière nouvelle, d'une manière renouvelée. J'ai besoin, avec mes amis ici, d'être sondé à nouveau. Que tu descendes, Seigneur, jusqu'aux profondeurs de mon cœur, pour que je puisse me voir comme toi tu me vois réellement. Je suis d'accord, Seigneur, même si je crois que ce n'est pas forcément douloureux, puisque tu nous aimes, puisque tu nous fais grâce, puisque tu nous révèles en même temps que tu nous montres qui nous sommes, qui tu es. Et il y a comme un vertige entre cet amour incommensurable que tu veux déverser dans nos cœurs et nos propres situations que souvent nous ignorons de manière consciente. Alors merci aussi parce que nous sommes un peuple. Nous ne sommes pas tout seul. Nous avons des frères et sœurs avec lesquels nous pouvons aussi nous confesser les uns les autres, avec lesquels nous pouvons aussi prier les uns pour les autres, avec lesquels surtout nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Et je le dis de la part du Seigneur, je crois qu'il y a un temps maintenant où soit nous entrons dans la sainteté, soit nous continuons à pratiquer le péché avec plus d'insistance. Et Dieu va séparer ces deux mondes au milieu de nous. Viens guérir ton peuple, Seigneur, et permets que tous ceux qui ont été appelés et élus entrent dans cette dimension d'être des saints, qui te louent et qui se préparent pour ton retour. Au nom de Jésus, Amen.